I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on vous fait un petit condensé, expliqué, analysé de ce qui se passe dans cette industrie merveilleuse et très importante pour comprendre le monde. Je dis ça, mais en fait, je vous mens, puisque aujourd'hui, on ne va pas du tout parler d'actu. C'est un épisode spécial. On en fait de temps en temps et on se focalise sur un sujet. Et c'est le cas aujourd'hui. On va vous parler de véhicules électriques, de voitures peut-être électriques, et peut-être un petit peu de voitures autonomes, même si je crois que ce n'est pas tellement d'actualité, en fait. La réalité des véhicules autonomes est peut-être un petit peu plus lointaine que ce qu'on pense. Mais on va étudier tout ça. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 451. Nous sommes encore en mars 2022 et je suis très heureux de recevoir pour cet épisode spécial Cédric Ingrand, qui est complètement acquis à la cause du lobby des voitures électriques.
Oui, absolument. Bonjour, je suis, bonjour. Bonjour, ici le lobby du grand capital, de la pollution, de tout ça. Non, pas du tout.
Je rigole, mais...
J'y suis acquis pour des raisons objectives dont on va se parler.
Exactement. C'est-à-dire que toi, tu es certainement enthousiaste sur la question des véhicules électriques. Je plaisante. Hein. Tu n'es pas rémunéré par Tesla et les véhicules électriques. Malheureusement.
Si seulement j'avais pu attraper quelques actions Tesla au fur et à mesure de la retape que je leur ai fait au travers de toutes ces années.
Au cours des années, oui.
Maintenant que tu m'en parles, je m'en aperçois.
Ah, ça, bon, si j'avais su, c'est un petit peu un truc qu'on peut dire à propos de beaucoup de choses. Mais du coup, alors Cédric, véhicule électrique, c'est un sujet vaste et il y a plein d'éléments à aborder. Je le mentionne, je suis sûr que les auditeurs le savent, mais les doigts dans la prise, le podcast, le premium, premier podcast about electrical vehicles en France.
Oui, le sous-titre, c'est le seul podcast automobile qui ne met pas de super dans ses cornflakes le matin. Parce qu'en fait, il y a plein de podcasts automobiles. Moi, je ne suis pas un fou de bagnole à l'origine. J'aime bien les voitures, mais tu vois, j'ai jamais acheté de trucs très particuliers comme bagnole. C'était souvent des choses un peu utilitaires. Et là, quand même, tout à coup, quand l'automobile se raccroche à une vraie révolution à la fois technologique sur, enfin tout, c'est-à-dire qu'en fait tout change. C'est du passé faisons table rase. C'est pas juste la même voiture qui devient électrique, même si c'est possible, mais c'est tout le reste qui change. C'est toute la vie qui va autour. C'est toute la conception qu'on a même de ses déplacements. Bref. C'était intéressant à plusieurs titres. Moi, ça m'intéressait à titre vraiment personnel. Et puis, on va se le dire, une fois que tu as fait un tour dans une Tesla, c'est bon, t'es condamné. Enfin, après, tu sais, c'est comme quand t'es un môme et que tu comptes tout ton argent en carambars en disant, alors ça fait 72 carambars. Là, c'est voilà, tu comptes tes économies en disant, alors j'ai un tiers de Tesla là dans la banque, là, peut-être qu'il faut. Enfin, bref.
Ouais.
Et du coup, j'en ai fait pas. Je suis comme toi, quand je fais un truc qui m'intéresse, j'en fais un podcast.
c'est un petit peu la vie des true podcasts. Mais le truc que tu évoques, c'est intéressant parce que effectivement, c'est pas juste une voiture dont le moteur est électrique au lieu d'être thermique. Quand on passe généralement à la voiture électrique et en particulier quand on a une approche dès le départ de véhicules électriques plutôt que quand on est un constructeur de convertir l'existant en électrique, il y a toute une partie qui est hyper importante, qui est la partie logicielle dont on parle souvent avec Tesla, et j'imagine que c'est en partie au moins le cas chez les autres constructeurs. C'est pas juste que c'est la même avec un moteur électrique, comme tu le disais, c'est que tout est conçu autour du logiciel, et donc c'est presque une philosophie de conception qui est différente et qui permet d'autres choses. Avant de parler des détails du chargement, de l'autonomie, des batteries, des problèmes écologiques, etc., est-ce que tu peux nous mettre un peu l'eau à la bouche en nous disant en quoi un véhicule électrique conçu de manière innovante est différent d'un véhicule classique ?
C'est terriblement compliqué parce qu'on est sur quelque chose qui est encore en train de se définir. Mais il y a des choses fondamentales qu'on subodore avant d'avoir une voiture électrique et qu'on comprend une fois qu'on l'a. Il y a beaucoup de simplicité. Alors, c'est bête à dire, mais il y a beaucoup de complexité en termes de logiciels, etc., etc. Il se passe plein de choses, mais que, un peu comme un système d'exploitation bien fait, la machine arrive à te cacher. En termes d'expérience de conduite, il y a toutes les choses qu'on sait, c'est-à-dire c'est silencieux, c'est agréable, c'est extrêmement réactif, parce qu'un moteur électrique, il sait te sortir son couple dès la première picoseconde. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire, comme ce que tu as sur un moteur thermique. Non, tu appuies et c'est parti. Et puis...
Donc tu veux dire, même le confort de conduite, ça j'imagine que les fans, enfin les amateurs de voitures le savent peut-être parce que c'est quand même une technologie qui est là depuis un moment et dont on entend parler chez les spécialistes, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas, le confort de conduite en lui-même, déjà par la technologie, est complètement différent.
Ah, bien sûr. C'est-à-dire que je rentre dans ma voiture, je démarre, j'attends 10 secondes que l'huile monte. Non, voilà. Non, tu appuies et c'est parti. Tu vois, c'est comme un smartphone qui serait en veille. Et, ouais. Et surtout.
Mais c'est vraiment, c'est-à-dire que, à partir du moment où tu rentres dans la voiture, elle sort de veille, c'est ça la bonne comparaison?
Oui. Oui, c'est exactement ça. Oui. Alors, celle que je connais la mieux, c'est la Tesla Model 3, parce que c'est la voiture que j'ai depuis maintenant 9-10 mois. Mais j'en ai conduit moult autres. Celle-là a quelques particularités. D'abord, c'est ton téléphone qui fait office de clé. On te livre des petites cartes RFID, tu vois, pour ouvrir la voiture la première fois, etc. Mais elles te servent surtout de backup. Et puis, en gros, la première fois, tu présentes ton téléphone à la voiture. Et à partir de ce moment-là, c'est ta proximité par le Bluetooth qui va déverrouiller la voiture. Mais quand tu la déverrouilles, elle se réveille, tu t'assieds, tu passes sur drive, parce qu'évidemment, il n'y a plus de boîte manuelle sur une voiture électrique. Et ça y est, t'es parti. Mais sur la durée, ce qui change de manière absolument radicale, c'est l'entretien. C'est-à-dire que, ou l'absence, enfin, en l'occurrence, d'entretien. Là, j'ai fait, je ne sais pas, 22, 23 000 kilomètres en 9 ou 10 mois. La somme totale de mon entretien, c'est remettre du liquide lave-glace, quoi. Et il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de courroie de distribution, il n'y a pas de... Alors, il y a des pneus, bon, les pneus aussi se changent au bout d'un moment. D'ordinaire, les voitures électriques, du fait de la batterie, sont des voitures un peu plus lourdes que la moyenne, donc les pneus ont peut-être tendance à durer un petit peu moins longtemps, mais c'est discutable. Moi, j'ai discuté avec un mécanicien Tesla cette semaine, justement pour les pneus, en disant « Mais quand est-ce qu'il faut que je les change ?» Et qui m'a dit « Bon, je pense que vous êtes serein jusqu'à 50 000 km, ce qui est pas mal pour un train de pneus. Même les plaquettes de frein, tu les changes beaucoup moins souvent que la moyenne, parce que les voitures électriques jouent beaucoup sur la décélération, tu vois, pour essayer de se recharger un peu. Du coup, c'est la voiture qui décélère plus que les plaquettes qui freinent. Enfin bref, non, c'est en fait, il y a un effet de cliquet. C'est-à-dire que une fois que t'as essayé, tu peux plus revenir en arrière. Moi, c'est un truc qui me frappait à chaque fois que j'allais essayer, en l'occurrence des Tesla, chez Tesla, parce que voilà, nous avons construit notre relation dans le temps. Et non, parce que c'est une expérience non seulement de conduite, mais aussi de voyages différents. Bref, donc il y en a que j'ai essayé pour une journée, puis il y en a que j'ai essayé pour un long week-end, etc. Et alors à chaque fois, moi, j'y allais avec ma voiture du moment, qui était, j'ai eu beaucoup de Volkswagen. Et quand je rendais la Tesla que j'avais empruntée et que je reprenais ma Passat, mon Touran, mon Tiguan, mon machin, j'avais l'impression... D'abord, j'avais presque honte. Tu vois, t'es sur un parking qui est rempli de Tesla et tu redémarres ton truc. T'as l'impression de démarrer un tracteur. Tu vois...
T'es pas un petit peu en train de nous faire le coup du membre de la secte ou du... Oh, peut-être pas de la secte, mais le fan d'Apple, tu vois, qui dit « Ah non, mais c'est tellement mieux, tu as des lignes pures. »
Non, parce que ces sectes-là, je les connais bien. Et là, tu peux retomber sur des trucs objectifs pour te dire, bah non, regarde quand même le dernier Samsung Galaxy, il déchire. Et la photo sur le dernier Oppo, elle est quand même mieux que sur le dernier iPhone. Enfin, tu vois, il y a des choses, tu peux retomber sur des choses objectives. Là, le truc, c'est qu'objectivement, on passe une génération technologique qui est celle du moteur à explosion, qui, quand tu te retournes dessus, n'a plus aucun sens, en fait. C'est-à-dire que même sur des choses absolument fondamentales comme l'efficacité énergétique, tu sais, c'est un peu la différence entre, je sais pas, une pompe à chaleur pour te chauffer et un feu de cheminée. Le feu de cheminée, bah, l'essentiel de la chaleur qu'il produit sort par la cheminée. Ouais. Dans une voiture thermique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'essentiel de l'énergie produite, bah non, elle part dans l'échappement.
Il y a un truc pour le confort d'utilisation, une comparaison qui me vient quand on parle de pièces mobiles en fait et de solid state, matériel qui n'a pas de pièces mobiles, et les fans d'informatique comprendront bien ça. Est-ce que la comparaison entre les disques durs et les SSD est valable?
Parce que même bien pas, sûr, c'est la comparaison entre un lecteur de disquette 3 pouces et demi et un SSD. C'est-à-dire, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, tu prends. Et c'est aussi pour ça que les grands constructeurs traditionnels ont, je dirais pas freiné des cas de fer, mais quand même. C'est-à-dire que tout à coup, ça leur vole leur avantage concurrentiel majeur. Quand tu es constructeur automobile aujourd'hui, Tu assembles déjà pas mal de choses qui viennent d'équipementiers, de Valeo, de Bosch, etc., etc. Tes calculateurs, enfin, il y a plein de choses, voire même jusqu'au divertissement. En revanche, il te reste une expertise sur laquelle personne ne peut t'approcher, c'est ton expertise de motoriste. Je veux dire, si tu sors d'une voiture un moteur un Volkswagen turbo diesel 1 litre 9, le truc qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires dans plein de modèles différents, ce truc est une cathédrale technologique, tu vois ce que je veux dire? Mais avec un aspect usine à gaz très littéral, parce que tu vois des tuyaux, des machins qui vont dans tous les sens, enfin, c'est d'une complexité absolument terrible.
C'est du steampunk,
quoi. C'est exactement ça, c'est du steampunk et face à ton iPhone, en gros. Avec je ne sais combien de centaines de pièces mobiles, les pièces mobiles, ça s'use, et de pièces tout court, si tu sors
c'est
le
pour ça
moteur...
Que, entre parenthèses, pardon, tu disais, et peut-être que certains n'ont pas bien saisi, tu disais qu'il n'y a pas d'entretien, et ça vient de ce fait-là, ça vient du fait qu'il n'y a pas de pièces mobiles. Donc,
de l'immense simplicité, en fait. C'est-à-dire qu'il
n'y a pas d'usure, simplement, il n'y a rien qui bouge.
Il n'y a pas une boîte de vitesse séparée, de machin. Non, et même, mais ça se voit, c'est-à-dire que je ne sais pas combien pèse un moteur thermique traditionnel, mais c'est en centaines de kilos. Face à ça, tu peux sortir le moteur quasiment d'une Tesla ou d'une voiture électrique traditionnelle, quasiment avec tes mains. C'est-à-dire que ça pèse, je ne sais plus, je crois que c'est 20 à 30 kilos. Ça n'a rien à voir. Et dedans, bah, y a une bobine qui tourne, et en gros, c'est tout. C'est-à-dire que je sais plus sur quel modèle. Enfin, il y avait une discussion chez Tesla à un moment. Aujourd'hui, pour l'instant, ils garantissent. Je dis Tesla parce que c'est la marque que je connais le mieux, mais tout ce que je vous raconte s'applique à l'essentiel des voitures électriques du marché. La garantie aujourd'hui sur le bloc propulseur, c'est 8 ans. Ou 160 000 km ou 80 000, ça dépend des modèles. Et en fait, Elon Musk un jour rigolait en disant on pourrait le garantir pour 1 million de miles, enfin ça changerait pas grand chose. Mais sinon que personne ne va jusqu'à 1 million, t'imagines 1 600 000 km sur ta voiture, ça tu vas loin. Et c'est pour ça que les comparaisons aux doigts mouillés sur oui mais alors regardez le bilan CO2 de la voiture au moment de sa production, c'est des conneries, parce qu'en fait on met côte à côte des voitures qui ne sont pas des équivalences. C'est-à-dire que une voiture électrique, potentiellement, vu le peu d'entretien, etc., va faire beaucoup plus de kilomètres durant sa vie utile qu'une voiture thermique. Après, il faut s'accorder sur le fait que la voiture la moins polluante, c'est celle que tu n'as pas besoin de produire. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus.
Sur ce point-là,
faire que du vélo, il n'y a pas de... Voilà.
Je pense que tout le monde sera assez d'accord. Les pros et les contres seront assez d'accord pour dire que l'essentiel de la pollution... la pollution au moment de la sortie d'usine est quand même relativement proche entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. La grande différence se fait évidemment après. Mais ça veut dire que la production engendre quand même des problèmes écologiques, qu'ils soient liés à la production elle-même ou à la question à laquelle on va revenir des terres rares, toutes ces choses.
Comment on fait les batteries ? Oui, tout à fait. Non, je dirais même quand même que la voiture électrique a une empreinte écologique supérieure au moment de sa production du fait de la batterie. en fait. Ouais. Parce que c'est ça la différence. Alors c'est vrai qu'il y a, sur le reste, son empreinte est bien moindre, parce que par exemple le moteur, enfin beaucoup moins de pièces mécaniques, beaucoup moins de trucs, pas d'huile, enfin très peu. Mais cette différence-là se refait au moment de l'usage. Alors il y a plusieurs calculs, ça dépend en fait de la source de ton énergie. Si ton énergie c'est uniquement de l'électricité qui sort d'une centrale à charbon, tu vas mettre beaucoup plus de temps à refaire ton retard, tu vois ce que je veux dire en termes d'empreinte. Attention, on ne parle que de CO2, je vais y revenir. Si tu es dans nos contrées à nous, c'est-à-dire avec... alors en France, c'est formidable parce que tu es quand même sur une électricité très largement décarbonée grâce au nucléaire. Dans les doigts dans la prise, une fois par mois, enfin une fois de temps en temps, on parle à un camarade et confrère qui s'appelle Martin Archambault, qui est québécois. Et chez eux, au Québec, toute l'électricité, ça vient de chez Hydro-Québec. Pourquoi Hydro-Québec ? Parce que ce n'est c'est des barrages qui produisent d'électricité. Donc un, il la paye rien, ce qui m'énerve terriblement, mais surtout elle est là aussi très largement décarbonée. Et là, alors il y a plusieurs estimations, mais en gros on te dit que au bout de 30 à 50 000 kilomètres, ça y est, tu as refait ton retard en termes de production de CO2 par rapport à un véhicule thermique qui lui ne refera jamais son retard. Alors je veux dire, il y a rien à faire. Mais surtout, ce débat sur l'empreinte CO2, c'est l'empreinte CO2. Je vous rappelle que le véhicule thermique, lui, il rejette dans l'atmosphère les 3 ou 4 000 composés de la combustion du carburant. Et je ne parle pas de l'empreinte écologique globale, de l'extraction, du transport et du raffinage du dit carburant. Donc non, en fait, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que tu disais les pour et les contre. Les contre, à mon sens, sont des gens qui ont besoin d'être plus informés.
En fait, je crois que l'argument des contres, et je ne veux pas vraiment parler pour eux, mais je pense que l'impression est assez juste et assez claire, ils diront qu'il ne faut pas penser aux véhicules électriques comme la solution en se disant on va remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques, et donc tout ira bien, parce qu'ils voudraient qu'on aille vers d'autres types de solutions qui serait plus de transport en commun, plus de, tu vois, de vélo, ce qui est peut-être un débat un petit peu différent dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui parce que ça serait très long. Je crois qu'on s'accordera aussi à dire que si on a une baguette magique et qu'on peut faire en sorte qu'il est plus facile de faire du vélo dans les grandes villes, qu'il y a plus de transport en commun, sur la question de l'électricité non nucléaire, ça sera plus compliqué d'arriver à une solution réaliste. Mais sur ça, si on peut se déplacer plus en vélo, plus en transport en commun, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord d'un point de vue écologique pour dire oui, ça serait mieux.
Oui, bien sûr, formidable.
Et tout à fait. Et l'un, on va dire, n'empêche pas l'autre. Il y a des cas où les voitures restent nécessaires / utiles. Et dans ce cas-là, si on prend ce cadre-là, et c'est celui-là qu'on va parler, les deux peuvent évoluer en parallèle. On peut réduire le nombre de voitures et en plus remplacer celles qui restent par des voitures électriques autant qu'on peut. Et c'est de ce cas-là dont on va parler et de ce que tu dis. Le seul réel point d'achoppement, c'est celui des batteries, sur lequel on va revenir. Mais au-delà de ça, tout le reste... il n'y a pas vraiment photo quoi, entre véhicules thermiques
en fait,
et véhicules électriques.
Au fur et à mesure que... En fait, le problème, nous sommes humains et nous avons... on est pétri de qualité, mais on a certains défauts assez constants qui sont, par exemple, la résistance au changement. Or, et on peut y revenir, ce qui change dans une voiture électrique, c'est pas juste la façon dont la voiture est conçue et la façon dont elle fonctionne, c'est aussi ta façon de concevoir tes déplacements. C'était ça la fameuse histoire de je crois que c'était en 2006, 7, 8, enfin quand Elon Musk s'est intéressé à la voiture électrique, il a formulé ce qu'il appelait son plan secret, puis qu'il a publié bien évidemment, en disant voilà ce qu'il faut faire pour généraliser l'usage de la voiture électrique. D'abord, il faut la rendre techniquement viable. Il y a du travail à faire justement sur l'autonomie, sur tout ça. Il faut la rendre désirable parce que l'image qu'on avait des voitures électriques à l'époque, c'était plus des voitures de golf. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je me souviens à l'époque à TF1, on avait, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, on avait un tout petit parc de voitures électriques pour les collaborateurs de TF1. Tu vois, par exemple, si tu avais un rendez-vous en ville pendant la journée ou une course à faire, un truc, bref, tu pouvais aller prendre une voiture électrique dans le parking et puis sortir avec, voilà, et puis tu la rebranchais pour la recharger en revenant, c'était gratuit. Mais c'était, tu vois, c'était, il y avait deux Smart et une petite Citroën C0. T'étais pas dans un truc qui te déclenchait des grandes envies, tu vois. C'était pas genre, ouais, putain, ma prochaine voiture, forcément, c'est celle-là. non, enfin, en tout cas, ça correspondait pas du tout, ni à tous les usages, ni à tous les besoins. Et c'est ça qu'il a voulu faire évoluer, en commençant évidemment par le haut de gamme, parce que c'était des trucs qui coûtaient cher. Et après, il est redescendu en gamme. Mais c'est intéressant que ce mouvement-là se soit fait, parce que il s'est passé qu'un jour, il faudra faire... J'ai pas encore vu le grand docu qui raconte l'histoire de la voiture électrique ou tout ça, mais je pense qu'il y aura des choses à faire. Il y a eu plusieurs exemples, parce qu'il y a... C'était en Californie, je crois, où l'État de Californie avait dit c'est important qu'on se prépare à l'électrique. Et ça, au tout début des années 2000. Et donc, ils avaient forcé les constructeurs à travailler sur le sujet. Et General Motors avait sorti une voiture qui s'appelait la EV1, je crois, qui avait un peu une drôle de tête, mais bon, qui était une vraie voiture électrique, et qu'ils avaient distribuée, et qui avait trouvé des preneurs, et même des fans, tu vois, une espèce de communauté de gens qui étaient à fond, en disant « Ah, c'est génial, je trouve ça trop super !» Et au bout de 2 ans, je crois, GM les a recontactés en disant « Bon, on va reprendre les voitures. »« Ah ben non, mais je veux la garder. »« Ah ben non, elle est en leasing, on vous la reprend. » Et ils les ont reprises, et ils les ont détruites. Parce que le problème d'un constructeur, d'un grand constructeur traditionnel, j'ai envie de dire historique, face à ça, c'est pas juste que tout à coup, ta connaissance granulaire, tu vois, de l'ingénierie, du turbo-diesel, tout à coup perd de sa valeur assez violemment, c'est que c'est aussi tout un modèle économique qui s'en va. C'est-à-dire que, si je te dis, bah, ta voiture, il n'y a plus d'entretien... Là, tout à coup, ton concessionnaire, il va faire la tête. Le principe même des réseaux de concessionnaires qui sont des commerçants indépendants, tout à coup, ça devient un peu compliqué parce que quand la moitié de ton chiffre d'affaires, je vous la fais au doigt mouillé là, est fondée justement sur l'entretien et qu'il n'y a plus d'entretien, tu te dis « Attends, chef, je vais faire quoi, moi ?» Donc, c'est très difficile pour un Renault, un Volkswagen, un Stellantis, etc., de dire « Allez, du passé, faisons table rase, on passe tout à l'électrique. » Parce que tout à coup, un, il va falloir que tu licencies tes dieselistes. Deux, tous tes concessionnaires disent « Mais moi, je ne m'y retrouve pas. Excuse-moi, chef, mais je ne peux pas faire de l'argent uniquement avec la vente. » Bref, c'est extrêmement compliqué. Ça explique aussi que des gens comme Tesla aient fait le choix de maîtriser tout de bout en bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau de concessionnaires.
C'est pour ça qu'ils ont leur propre store, c'est des concessionnaires.
Voilà. Même en termes de technologie, même en termes... Enfin, voilà, ils ont fait le choix de ce qu'on appelle une intégration verticale totale jusqu'à, là, en ce moment, ils sont en train de creuser, justement, une mine dans le désert du Nevada pour aller extraire leur propre lithium, pour alimenter leur propre usine de batterie et les mettre dans leur propre voiture, tu vois, et tout ça, c'est un modèle qui n'existe pas dans l'automobile traditionnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'opposé,
on est un petit peu aux frontières de la tech, hein, on pousse un petit peu le potentiomètre en parlant de véhicules électriques en général, on est aux limites peut-être de ce qu'on pense, de ce à quoi on pense quand on parle tech, mais c'est quand même très intéressant. Et je crois qu'il y a des parallèles parce que le fameux dilemme de l'innovateur qui fait que les grands acteurs existants sont très frileux et ont du mal parce que ça disrupte, voilà, on ajoute des termes, des barbarismes pour faire bien technophile,
voilà.
Ça disrupte l'industrie et leur modèle économique. Là, il y a un parallèle qui est clair, quoi. Il faut que ce sont ceux qui vont partir de rien et pouvoir tout repenser depuis le départ qui vont pouvoir installer un système plus cohérent.
Bah, en tout cas, c'est plus facile.
Je t'ai interrompu du coup, mais on... donc bon, je pense que on a fait un petit tour d'horizon de. J'ai quand même pas une image très très claire des raisons pour lesquelles c'est tellement mieux. Tu nous l'as dit, tu nous l'as répété. Mais c'est juste.
C'est un ensemble. Hein. Ouais. C'est pas juste parce que c'est agréable à conduire. En ce moment, alors quand je regarde le prix de l'essence, je suis pas de ceux qui se moquent en disant bande de gueux avec vos diesels. Non. Mais c'est vrai que voilà, tout à coup, le prix de l'essence à la pompe ne te touche plus. C'est une véritable économie au quotidien. C'est-à-dire, ça a absolument rien à voir en termes de. C'est simple. Alors, je te la fais rapide. Ma voiture a une batterie qui fait 55 kWh. Pour la recharger, il faut donc que je compte, il y a un petit peu de déperdition peut-être sur le chargeur, donc je sais pas, disons 60, 65. 65 fois 13 centimes, ça nous fait, j'ai jamais fait ce calcul, c'est drôle, hein. Ça fait 6, 7, 8 euros, un truc comme ça. Avec 8 euros, je fais 400 kilomètres. Voilà. Les mêmes 8 euros dans la voiture que j'avais précédemment, en ce moment, m'emmèneraient royalement vers 50, 60 kilomètres. Oui. Tu vois ce que je veux dire, en ville. Donc voilà, là, il n'y a pas photo. Là aussi, il y a un effet cliquet où tu ne peux pas vraiment revenir en arrière. C'est d'ailleurs pour ça aussi que, enfin, on reviendra peut-être sur les histoires de l'hydrogène, mais que l'hydrogène, moi, j'y crois pas un instant.
Tu crois pas parce qu'il y a tout le réseau d'acheminement qui est compliqué ou...
Mais parce que l'hydrogène n'intéresse que ceux qui ont l'hydrogène à te vendre. Oui. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui en termes écologiques. Ça n'a alors vraiment aucun intérêt en termes économiques.
Si, parce que l'hydrogène, t'as pas de rejet termes écologiques.
Alors il y a pas de rejet au tuyau d'échappement. Mais les rejets, alors là pour le coup, ils sont hyper massifs en amont. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, on te vend de l'hydrogène gris qui est produit par la méthanisation du comment ça s'appelle. Enfin, en gros, on part de gaz naturel pour faire de l'hydrogène. Alors après, on dit oui, mais on peut le faire par électrolyse, mais ça consomme énormément d'électricité, donc on dit c'est pas grave, on le fera avec le surplus d'électricité verte. Oui, alors le surplus d'électricité verte, regardez le prix d'électricité et les courbes d'Electricity Watch, etc. Tout ça n'existe pas aujourd'hui.
Le gros problème, clairement, de l'électricité verte, au-delà du fait que la seule solution réaliste, ça soit le nucléaire à ce stade, pour une quantité d'électricité.
Non, ça peut être du solaire ou de l'éolien, mais imaginez que tout à coup, tu vas avoir un surplus tel de consommation de production d'éolien.
Oui. Non, mais c'est ça.
Ce que je veux dire, c'est que non, ça n'a pas de sens.
La solution réaliste pour arriver à combattre le changement climatique dans les 50 prochaines années, c'est... Alors, je suis sûr qu'il y a des gens, des partis écologistes qui vont nous dire « Si, on peut y arriver si on engage telle et telle réforme, peut-être. » Mais je sais pas. Enfin bon, bref, on va pas partir sur ces... Moi, j'ai l'impression que le nucléaire est un peu inévitable si on veut le faire vite et bien. Et oui, le nucléaire pose d'autres problèmes, mais qui sont pas du tout aussi urgents que...
Oui, tout à fait. Bon, et donc, pour finir sur l'hydrogène, même si on était dans des conditions idéales de machin de ça, c'est un truc dont l'efficacité énergétique est pas terrible, parce qu'en fait, l'hydrogène est une espèce d'énergie de stockage, mais qu'il faut acheminer. Enfin bon, c'est compliqué. C'est l'un des gaz qu'on trouve dans l'atmosphère, mais qu'on peut pas extraire. Et au final, ton prix à la pompe serait supérieur à celui du super sans-plomb, même aujourd'hui. Donc ça n'a pas d'intérêt, sachant que, au moins sur l'électrique, des points pour alimenter ta batterie, il y en a partout, n'importe quelle prise électrique peut faire l'affaire.
Bah justement, on va parler du chargement, mais peut-être, j'ai envie de parler de batterie et des problèmes que posent les batteries aussi. Peut-être qu'on va se laisser un petit moment sans controverse avant de revenir à la question des batteries. On parle de chargement. Comment ça se passe?
De recharge.
De recharge.
Comment ça se passe?
Tu achètes ta bagnole. Que tu sois... Enfin, si tu es dans un immeuble, c'est une chose. Si tu es dans une maison individuelle, c'est une autre. Est-ce que tu peux simplement brancher ta prise sur du 200... Enfin, brancher ton truc sur du 220? Oui. Enfin, je sais que Absolument. C'est possible, mais ça met très longtemps à se recharger, je crois.
Ça dépend. Voilà. Il n'y a plus que des situations particulières. C'est-à-dire, si tu habites une maison individuelle et que tu peux garer ta voiture dans un garage ou directement à côté de ta maison, etc., on va juger que tu n'auras jamais vraiment de problème de recharge. Après, ça dépend de ton besoin réel. Si, je sais pas, si tu es taxi ou VTC et que par essence, tu fais 300 à 400 bornes par jour, alors clairement, il te faut une borne de recharge rapide. Ça va te coûter... entre 700 et 1500 euros pour ce comprise. Mais là, tu sais que la nuit, pendant que tu dors, tu peux repartir de zéro et ta batterie sera entièrement rechargée. Et tu ne paieras pas ton électricité plus cher. D'ailleurs, plutôt moins cher, parce que tu auras des heures creuses, etc.
C'est-à-dire que tu as, sur ton installation électrique, a priori, si elle est relativement moderne, tu n'as pas besoin de faire de modifications de ton installation électrique.
Alors, si.
Si, quand même.
Ah, non, t'as pas. Non. Il faut juste regarder quelle est la puissance de ton installation. Mais ça, tu peux le changer par un coup de fil à Enedis. D'accord. Tu vois ce que je veux dire?
Non, parce que.
Tu dis, voilà, finalement, il me faut 9 kW plutôt que 6 ou 12 plutôt que 8 D'accord. ou je sais pas, etc. Ça va pas changer grand chose, juste un peu ton abonnement. Maintenant.
Moi, je suis dans une très vieille maison individuelle dans ma campagne finlandaise et le système électrique a 50 ans, tu vois. Donc, pour moi, je crois que ça serait un petit peu différent.
Je sais pas, peut-être qu'il est temps de faire quelque chose.
C'est ça, exactement. Je dis 50 ans, je suis généreux, c'est peut-être un petit peu...
Ne serait-ce que pour des aspects de sécurité électrique.
Exactement. Voilà. Mais du coup, ça, le chargement électrique, tu dis la nuit, t'es bon, mais c'est quoi ? C'est 2 heures ? C'est 5 heures ? C'est quoi ?
Ça dépend, parce que t'as des bornes de différentes puissances. Et c'est là aussi que les choses deviennent intéressantes, parce que, tu vois, par exemple, on dit, mais vous rendez compte ? Si tout le monde rentre chez soi et tout le monde branche son... Mais non, mais d'abord, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de recharger ta voiture tous les jours, sauf si, justement, tu fais un nombre de bornes incroyable. Et du coup, non, tout le monde va pas forcément se brancher en même temps, et en plus tu vas te brancher et essayer de profiter de tarifs nocturnes à un moment où on n'a pas de problème de pic de consommation. Donc en fait, il y a une étude, je ne l'ai pas sous les yeux, d'EDF ou d'Enedis, c'est un peu la même chose, qui dit non, je vous rassure, enfin ça veut dire une surconsommation par rapport à l'existant qui se calcule, c'est quelques pourcents, et en gros le réseau peut parfaitement l'encaisser. Mais surtout, alors là c'est ce qui va se passer après, c'est ce que permet par exemple le déploiement de tous les compteurs Linky, c'est qu'on va arriver à une situation où, imaginons, tu branches ta voiture, elle se recharge doucement, et là, tout à coup, il y a des pics de consommation parce que c'est l'hiver, parce que tout le monde chauffe, parce que tout ça. Eh bien, il y a un moment où ta voiture pourrait rendre de l'énergie au réseau. En disant bon, c'est pas grave, tu vois, je vais rendre quelques kilowatts et ce qui va permettre d'éviter des coupures d'électricité, enfin des problèmes de conso, etc. quand t'as des pics de conso, ton opérateur électrique te rachète tes kilowatts normalement à un prix un peu supérieur auquel il te les a fait payer et tout le monde est content. Ça, on n'en est pas encore là, mais l'essentiel de l'infrastructure est en place pour que ça fonctionne. Il y a plus quand même, bon, ça va venir, en tout cas c'est dans les tuyaux.
Tu dis ça, ça veut dire que tu te retrouves à 6h du mat quand tu pars de ta maison et pour aller bosser parce que tu te lèves.
J'ai pas dit que ça allait vider ta batterie, j'ai dit d'abord que...
Ouais, mais donc tu te retrouves avec une batterie à moitié vide parce que tu as eu besoin de rendre de l'électricité au réseau.
Là tu réfléchis à des modèles extrêmes. Mais
c'est-à-dire qu'elle se vide à 1h du mat et puis ensuite de 4 à 6, elle se recharge pour compenser.
Exactement.
D'accord.
Voilà, parce que tout ça fonctionnerait pas avec un truc branché sur ta prise électrique habituelle, mais avec des boîtiers de recharge intelligents qui justement géreraient les choses de manière intelligente. D'accord. Et quitte à recharger plus vite après, donc dans l'essentiel des modèles d'usage, tu verrais pas la différence en te levant le matin, tu vois ce que je veux dire. Ou au pire, ce serait genre, je
suis à 100%,
elle est à 80. Voilà, la belle affaire.
Mais du coup, t'as pas répondu à la question. En combien de temps ça se recharge si on a un équipement spécialisé avec borne de recharge rapide, machin? Ça prend combien de temps? Parce que entre 20 minutes et 5 heures, il y a une différence.
Ça dépend. ça dépend de la capacité de ta batterie et de la puissance de ton chargeur. C'est pas compliqué.
Disons que tu as des gros besoins pour la bagnole et tu te dis, moi, je veux que ça charge vite. Quel est le maximum possible à la maison? C'est ça ma question, en fait.
Tu peux avoir du 11 ou du 22 kWh de puissance de recharge, sachant que l'essentiel des batteries font entre 40 et 80, quelques-unes font 100. Voilà, tu peux faire ta règle de 3. Et te dire que tu peux, si t'as une batterie pas très grosse, la recharger entièrement en 2 à 3 heures jusqu'à 6 à 7 heures. Et là encore, c'est à confronter à ton usage de la voiture, tu vois. Faut bien que tu dormes la nuit quand même dans l'ensemble.
Alors, oui, sauf si. A priori, si t'as vidé 20% de la batterie, tu rentres chez toi, tu la recharges, tu recharges les 20%. Pendant la nuit, tu vas pas recharger.
Exactement. 100, Ou d'ailleurs, tu recharges pas parce que tu sais combien de kilomètres tu fais dans la. Tu vois, les gens ont quand même des vies qui sont assez réglées dans l'ensemble. Mmh. Et moi, je sais, c'est un truc. Je me souviens quand on a fait le premier épisode des Dans la prise, l'un des trucs qui nous a fait beaucoup rire, c'est tous les gens qui disent non, mais attends, mais si demain matin je me lève et j'ai envie d'aller manger une gaufre à Bruxelles, je fais comment? C'est-à-dire que les gens comparent leurs besoins, enfin estiment leurs besoins de l'automobile à son usage le plus extrême. Mmh. En disant, mais attends, mais si je veux partir à Nice, c'est pas m'arrêter en route. Bah, tu fais ça combien de fois dans le coin de temps, combien de fois dans l'année, enfin je sais quoi. Et si vraiment à un moment t'as un besoin, tu dis non mais faut absolument que je fasse 2000 km sans m'arrêter quasiment, et bah tu loues une voiture, je sais pas. Enfin, et alors justement, après il y a la question de la recharge sur la route, c'est-à-dire sur des grands trajets. Et c'est intéressant
parce
de voir
que les superchargeurs ils chargent en 20 minutes, on est d'accord, les trucs sur
ah oui,
route ça charge
ça va à une vitesse ça en fait je vais le dire, ça va presque trop vite en fait maintenant, c'est-à-dire que c'est un vrai problème.
Exemple, prendre ton café et d'aller aux toilettes quoi.
T'as le temps, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, le grand trajet que je connais le mieux, c'est de partir de l'ouest de Paris pour aller jusqu'en Bretagne. Donc ça fait 500 bons kilomètres. Et je l'ai encore fait récemment avec les enfants. Et tu vois, à un moment, tu te dis, bon, bah, quoi, cool, on s'arrête à Rennes pour recharger. Et puis, ça tombe bien parce que le chargeur, il est sur le parking du McDo quasiment. Donc, on va aller manger une frite en attendant que ça charge. Et tu vois, tu fais la queue, tu prends le truc, les Happy Meal, le machin. Enfin, je te raconte ça quand t'auras trois enfants, toi aussi. Et là, tu t'assieds, enfin, tu dis, c'est bon, on va pouvoir manger. Et là, ton appli Tesla te dit, ça y est, la charge de votre voiture est quasi terminée. Attention, hein, si vous restez trop longtemps, on va vous prendre des sous. Ah ben non.
Mais voilà. Du coup, il faut sortir et la changer de place pour finir ton hamburger, quoi.
Alors, oui ou non, parce qu'en fait, la voiture... Bon, là, il y a des choses qui sont spécifiques à Tesla, et il faut leur reconnaître avoir eu... En gros, c'est ça, le fameux plan secret d'Elon Musk, c'est de retirer tous les obstacles entre la voiture électrique et l'envie, le besoin et les craintes du consommateur. Le deuxième truc, au-delà de la désirabilité et tout ça, etc., et de l'autonomie, bah justement, c'est la recharge. C'est de dire, ah bah, mais attends, si je pars en vacances, je fais comment ? Mmh. Et bah, donc, c'est pour ça qu'il a construit son propre réseau de chargeurs. Ça leur a coûté des milliards et des milliards. C'est-à-dire qu'il y en a partout. Mais pas seulement de chargeurs, mais de super chargeurs, c'est-à-dire de recharge ultra rapide. Là encore, par exemple, si j'utilise la prise électrique, on n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement tout à l'heure, mais moi, je vis un petit peu loin de mon bureau. Mon bureau est à 30 km de chez moi, donc je fais 30 km dans chaque sens, 60 bornes par jour. Et pourtant, j'ai même pas eu besoin vraiment de me faire installer une borne de recharge. D'abord parce qu'il m'arrive souvent de recharger au bureau, parce que j'ai le bonheur d'avoir des bornes accessibles, donc ça, c'est chouette. Et secondo, parce que si j'ai besoin de charger chez moi, bah, j'ouvre le coffre et puis je prends le chargeur qui est dedans, qui se branche sur une prise électrique. Faut juste faire attention parce qu'évidemment, toutes les prises électriques chez vous sont pas faites pour supporter 2 à 3 kilowatts en continu. Donc, tu baisses un peu sur l'appli la puissance que tu veux et puis ça recharge pendant la nuit. Et si ça recharge pas à 100%, c'est pas important, tu vois. Sauf si je sais qu'il faut que je fasse 300 bornes le lendemain.
Tu le charges et ça, sur une prise normale de
tout à fait.
Pas une prise de four, tu mets combien de temps à recharger
c'est simple.
En 10 heures, tu vas recharger combien ?
Je vais recharger une 20-25 kilowatts, donc quasiment la moitié de la capacité de la batterie.
D'accord. Okay. Et on rappelle, l'autonomie de ton véhicule à toi spécifiquement, c'est 400 kilomètres. C'est à peu
Alors,
près...
attention.
Oui ?
Ça dépend comment on calcule.
Ah.
C'est-à-dire que et là aussi, c'est un truc qui va à l'inverse du thermique. L'autonomie d'une voiture électrique, elle est meilleure en ville. Alors que, tu sais, quand tu regardes la console d'une voiture, on te dit, elle prend 6 litres au 100 sur autoroute, 7 litres 2 à 130 et 8 litres 3 en ville. Tu dis, ah bon, bah en ville, parce que start, stop, monter en régime, baisse de régime, etc. etc.
Et là, ça recharge quand tu freines. Quoi.
Alors d'abord, ça recharge quand tu freines, mais c'est beaucoup moins gênant pour un moteur électrique en termes d'autonomie, le start and stop. Mmh. Alors qu'à l'inverse, parce que justement, tu as des séquences de décélération. Alors qu'évidemment, si tu es sur l'autoroute à 130, il n'y a pas de séquence de décélération. Mmh. Et du coup, ça consomme beaucoup plus. Plus tu vas vite, plus ça consomme. D'accord. Et j'ai fait l'expérience. Le génie de Tesla, outre d'avoir mis en place ce réseau de superchargeurs, c'est de l'avoir intégré évidemment dans le logiciel de navigation sur le grand écran central. C'est-à-dire que tu dis, tiens, je veux aller à Brest. Et là, il te dit, d'abord, il regarde évidemment la circulation, machin, enfin ça, c'est Google Maps derrière. Mais surtout, il te dit, bah alors, donc voilà, tu as X% de batterie, tu veux aller là, donc très bien, tu vas y aller, mais tu vas passer par tel chargeur et tel chargeur et tel chargeur. Ou un ou deux, etc., etc. Voire même parfois, il peut te dire, alors tu vas passer là, mais si tu roulais à 110 au lieu de 130, tu pourrais t'éviter un arrêt. À la fin, tu pourrais gagner du temps. Et alors, du coup, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, en revenant justement sur l'autoroute de l'Ouest, et en me disant, tiens, je vais pas rouler à 130, mais à 120. Et ça fait une vraie différence de conso. Alors 110, je vous raconte pas, bon, pas en dessous parce que t'as pas envie de faire du 80 sur l'autoroute, mais sauf si vraiment t'es forcé. Donc tout à coup, tu t'apprends à maîtriser un peu ta consommation. J'ai par exemple fait l'expérience, justement en revenant de ma Bretagne, où le truc me disait, tiens, tu vas t'arrêter à Saint-Brieuc, puis à Rennes, puis à machin. Ouais, je sais pas. Donc j'ai passé Saint-Brieuc en disant, hop, oups, j'ai oublié. Et là, le truc m'a dit, oh, bah, c'est pas grave, tu peux pousser jusqu'au Mans. Donc, j'ai fait 360 km sur autoroute sans m'arrêter. Mmh. Avec ce que je rappelle est la petite Tesla avec la petite batterie. Je te fais des air quotes que tu ne vois pas, mais donc, en gros, l'autonomie est un truc qui se maîtrise et qui s'apprend. Et là où les gens, par exemple, regardent de manière religieuse le nombre de kilomètres restants d'autonomie, ce qui est difficile parce que c'est une estimation à un instant T au doigt mouillé qui va dépendre des conditions de la route. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Comment tu conduis? Au bout d'un moment, tu changes le display pour qu'il t'affiche juste le pourcentage de batterie restant parce qu'en fait, les kilomètres, tu sais que ça veut pas dire grand-chose.
On parle de chargeurs et de superchargeurs. Tu dis qu'il y en a partout. D'une part, les chargeurs, ça charge pas en 20 minutes. Ta batterie, c'est les superchargeurs qui font ça. J'imagine qu'il y a des. À vrai dire, j'imagine, mais je me trompe peut-être. Est-ce qu'il y a des systèmes équivalents chez tous les constructeurs ou c'est vraiment Tesla, c'est chez Tesla et basta. Et puis donc les chargeurs normaux entre guillemets. Ouais. C'est ceux qui chargent lentement. Genre tu vas à l'hôtel si t'es sur la route quelque part. C'est pas que tu vas charger en 20 minutes. C'est combien de temps?
Alors, les chargeurs normaux, si tu veux recharger de 0 à 100, même si tu n'atteins jamais 0 et c'est rare que tu recharges à 100, ça se compte en heures.
Oui, d'accord.
Très clairement.
Donc, c'est vraiment si tu fais un long trajet, c'est les superchargeurs que tu vas chercher.
Ah oui, bien sûr. Alors, ils sont sur les grands axes. Principalement, il y a ceux de Tesla. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que récemment, Tesla les a ouverts aux autres voitures. Ils ont maintenant, même en France, c'est un peu au-delà d'expérimentation, mais c'est pas encore généralisé. Si tu peux avoir n'importe quel type de voiture électrique aujourd'hui en France et aller sur toute une série de chargeurs Tesla, pas tous, parce qu'il y a des questions de génération de chargeurs, enfin je vous la fais rapide, mais en gros, t'installes l'appli, tu mets ta CB dedans, tu t'identifies sur l'appli et puis ça y est, tu charges.
Mais c'est compatible tout ça, les prises de chargement, tout ça est compatible entre eux.
Nous, on a une prise en Europe qui s'appelle la prise type 2 et qui est un vrai standard. Au début, c'était un peu le bordel parce que, par exemple, la Zoé de Renault avait une prise différente. Enfin, il y avait des améliorations, propriétaires, tu vois, des standards. Et puis, il fallait que les standards s'établissent. Là, maintenant, toutes les voitures ont une prise type 2 et certaines ont, beaucoup d'ailleurs, ont une double prise qu'on appelle CCS, une prise combo qui permet justement de recharger plus rapidement, en gros en courant continu et pas juste en alternatif. Enfin là aussi, je te la fais rapide, mais voilà, c'est standard. Il n'y a pas une marque de voiture où on va te dire, ah non, ça marche pas. Ça. Non, les prises
donc
sont
aujourd'hui,
standard.
Avec un véhicule acheté relativement récemment ou qu'on achète maintenant, tu peux charger a priori, on imagine qu'il y aura quelques exceptions rares encore, un moment, mais tu peux recharger ta voiture. Si tu vois un point de rechargement véhicule électrique, tu peux y aller, tu peux mettre ta voiture dedans, quel qu'il soit.
Alors ça, en tout cas, sur le papier. Oui. Parce que...
parce que je pense aux gens qui voient, tu vois, il y a de plus en plus de places rechargement électrique dans la rue, machin. S'il y en a une en bas de chez toi, j'imagine qu'a priori, tu peux y aller.
Oui, bien sûr. Oui. Mais et c'est là où je disais que c'est quand même énormément de cas particuliers. Moi, j'ai le grand bonheur de pouvoir recharger tant chez moi qu'au bureau. Donc forcément, j'ai absolument aucun... J'ai jamais une angoisse de la recharge. Mais là où je te disais qu'il y avait un effet de cliquet et que les gens qui sont passés à l'électrique ne reviendront jamais au thermique, j'ai trouvé une exception et c'est un ami qui, lui, il y a 2 ans, un peu plus, je crois, avait craqué. Avait craqué et avait acheté une Tesla, en l'occurrence. Mais qui, lui, habite dans le 17e arrondissement à Paris. Il n'a pas de parking. Bon, ça, c'est dur. Et d'ailleurs, le seul parking public qui est à côté de chez lui n'a pas de borne de recharge. Et donc, il errait comme une âme en peine pour recharger sa voiture, essayer de trouver des points de recharge qui, parfois,
c'est lui coûtaient plus cher. C'est un peu le cauchemar pour les... C'est ça, ce qu'on craint pour les voitures électriques, tu vois. C'est, bah oui, mais où je recharge, moi ? C'est un vrai problème, ça.
Je pense que là, il était un peu en avance sur la musique par rapport à la capacité, si tu veux, de la ville et de son environnement immédiat à encaisser son usage. J'ai vu des choses assez... j'ai vu en Allemagne, je crois que c'est à Berlin, ils ont décidé simplement que, tiens, on pourrait mettre des bornes de recharge directement sur les réverbères. Et alors, c'est des bornes de recharge lents, entre guillemets, c'est juste des prises. Mais tout à coup, t'as pas besoin de faire un gros upgrade du circuit électrique, c'est assez facile à déployer, etc. Et avec d'ailleurs un détail d'architecture urbaine, c'est que là-bas, beaucoup de réverbères sont au bord du trottoir, et pas contre le mur de l'immeuble. Donc t'as même pas besoin de faire traverser ton câble au trottoir, ce qui poserait plein de problèmes. Et parce que j'ai vu aussi des gens qui élaborent des stratagèmes absolument terribles, tu vois, en sortant une rallonge de leur balcon pour aller jusqu'au truc. Bon, là, je pense que ça, c'est... Il va falloir trouver d'autres solutions. Et là, tout à coup, tu peux déployer des centaines et des centaines et des centaines de prises. Tu scannes un QR code, c'est bon, ça te débite du prix d'électricité, tu branches ta voiture et voilà. Ça, chez nous, ça va être plus difficile parce que c'est rare, les réverbères qui sont en bord de trottoir. C'est con, hein. Mais voilà, les solutions vont finir par exister, mais je suis bien d'accord sur le fait que pour l'instant... c'est évidemment plus facile si tu as déjà accès à une prise électrique, que ce soit chez toi, au bureau ou ailleurs.
D'accord. Écoute, je crois qu'on a couvert un petit peu une bonne partie des caractéristiques. On va parler batterie, on va parler un petit peu voiture autonome aussi. Mm-hmm. Avant ça, je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur l'expérience logicielle des Tesla. Et que tu nous dises si c'est le cas chez les autres constructeurs qui font des véhicules électriques. Tu évoquais le grand écran central. C'est un peu le fantasme de la Tesla, c'est le vaisseau spatial avec le grand
écran. C'est un peu la marque de fabrique aussi, parce que dès la première, enfin pas la toute première, toute première Tesla, c'était un tout petit roadster de place qui était en fait fabriqué à partir d'un châssis de Lotus. Et bon, c'était là juste pour dire, regardez, on peut faire une voiture électrique sympa, rigolote, qui va vite. Bon, très bien. La première vraie Tesla, j'ai envie de dire, c'est la Model S, sortie en 2013. Grande berline sportive, très chère, c'était plus de 100 000 euros, et avec justement ce grand écran central à l'époque vertical, au milieu de la console de bord, et avec du coup des fonctions multimédia que t'avais jamais vues sur une voiture ailleurs, c'est-à-dire un grand écran tactile réactif avec le GPS, l'essentiel des fonctions de la voiture, mais il y avait encore des cadrans, des boutons, etc. Et puis t'avais aussi un afficheur devant le conducteur. Le gros changement, ça a été avec l'arrivée de la Model 3, donc la Tesla pas chère, entre grosses guillemets. On reviendra sur le prix, parce que c'est facile de dire pas cher. Mais bon.
C'est combien une Model 3 ?
Alors,
de base, la moins chère.
Alors, moi, j'ai une chance immense. Il y a un peu plus d'un an, début janvier 2001, la Model 3 valait de base 49 990 euros. Bon, une fortune. C'est beaucoup d'argent. Et puis, probablement pour booster les ventes, ils ont fait baisser massivement le prix jusqu'à le faire descendre à 43 800 euros, si mes souvenirs sont bons. Ce qui veut dire que tu passais sous la barre des 45 000 et que tout à coup, tu accrochais le bonus écologique de 6 000 euros. Donc, ça veut dire qu'elle ne te coûtait plus que 37 000 euros. Mmh. Et donc, forcément, là, ça a été le grand bond en avant. C'est-à-dire que les livraisons ont explosé. C'est devenu, je crois, la voiture la plus vendue en Europe, enfin, etc. Toutes motorisations confondues. Et donc, ça, c'est le prix auquel j'ai payé la mienne. Mais on est bien d'accord sur le fait qu'il manque encore. Alors, il y a des voitures moins chères. Dacia a fait la Dacia Spring, qui est une chouette petite... petite, on va dire petite familiale, avec une batterie pas très grosse, mais qui est une bonne voiture pour le quotidien. Il manque encore, j'ai envie de dire, ça manque encore de voitures à 20 000 euros et en dessous. Mais ça, ces courbes-là, elles vont se croiser parce qu'en fait, la baisse du prix des batteries et du reste des technologies et la simplicité de ces voitures fait que on va là, je sais pas, dans un an, dans deux ans peut-être, et on commence à le voir déjà sur certains modèles. On voit des voitures dont le modèle thermique coûte le même prix que le modèle électrique ou presque. Enfin, et je parle pas du coût d'utilisation et du coût lissé sur deux ans, trois ans, quatre ans. Voilà, là, prix d'achat, prime comprise. Après, ce qu'on attend, c'est de voir justement que les courbes se croisent sans même la prime.
Ok, donc tu disais modèle 3, grand écran central, là c'est le...
Oui, la vraie révolution, c'est quand ils ont dévoilé la modèle 3, donc en 2017, 31 mars, je m'en souviens, parce que moi j'étais allé la commander la veille du jour où ils l'ont dévoilé. Moi je ne l'avais pas vu, mais je suis allé filer, je ne sais plus si c'était 100 euros ou 1000 euros chez Tesla en disant « je la veux ». Ils m'ont dit « mais vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, je vous fais confiance ». Et bon, mais...
et après, je parlais de secte tout à l'heure, non, c'était pas... D'accord.
Non, mais je savais que c'était ça que je voulais, parce que j'avais essayé toutes les autres, et évidemment, les autres, elles valaient entre 90 et 130 000 euros, donc c'était inenvisageable. Mais là, voilà, on ne savait pas encore, mais on disait elle sera à 35 000 $. Bon, entre-temps, ça a un peu augmenté, tout ça. Enfin, non, mais il y a eu de l'inflation entre l'annonce et la sortie, évidemment. Et quand elle a été dévoilée, le grand choc, c'était quand même de regarder une voiture, il n'y avait plus de cadran. Il n'y avait plus que cet écran central. Au début, on se disait, non, mais ça, c'est parce que c'est le proto, c'est normal, attends, à un moment, il va quand même mettre des... Eh ben non, pas du tout. Non, mais il va bien mettre, je ne sais pas, un affichage tête haute projeté. Non, pas du tout. Rien. Voilà. Juste l'écran central sur lequel se trouvent toutes les informations. Alors, évidemment, ça a un impact sur le coût de fabrication de la voiture, parce que tu n'as plus les cadrans, les machins, le truc, la vitesse...
Quand tu dis l'écran central, c'est un truc au milieu... entre la place, la place du mort et la place du conducteur.
À droite de ton volant. À droite de ton volant.
Mais t'as rien là où t'as le... Il y a quoi ? Il y a juste ton...
Il y a une planche de bord et une longue lame machin qui recèle l'aération. Voilà, c'est tout.
D'accord. Okay. Pour voir à quelle vitesse tu vas, il faut que tu regardes au centre de ta voiture, quoi.
La planche de bord. Comme une Mini Cooper des années 60 où le cadran était totalement au milieu. Là, tu jettes un coup d'œil sur la droite. Mais en fait, tu aperçois que tu jettes de moins en moins de coups d'œil au bout d'un moment. Au début, c'est un peu... je comprends. Très bien. On s'adapte. Hein, c'est pas... Voilà. Mais il y avait une vraie volonté de simplification sur la fabrication, sur tout le reste. Et puis deux, une projection dans un avenir où tout à coup, ce qui se passe sur les cadrans serait pas très intéressant, parce que de toute façon, si la voiture se conduit tout seule, qu'est-ce que t'as à foutre de savoir, tu vois, c'est la pression d'huile. Voilà. Et c'était quand même ça déjà l'idée, c'était la promesse déjà. Alors on attend sa réalisation, mais ça c'est le problème du Elon Time, tu vois. C'est... Non mais il le reconnaît bien, il le reconnaît lui-même. Il dit voilà, j'annonce des trucs parce que je sais que ce qu'on veut faire et je sais qu'on va le faire. Bon, et puis après, la réalité fait que, tu vois, il faut passer des barrières technologiques, économiques, réglementaires, enfin que, voilà, les choses prennent toujours un peu plus de temps qu'on ne le voudrait. Mais voilà, tout est sur l'écran. Mais tout. Et un écran qui t'en donne plus que celui d'une voiture habituelle, c'est-à-dire que, par exemple, la voiture a sa propre ligne 4G, elle t'est livrée au début, alors après, c'est un abonnement avec ton propre compte Spotify, avec, enfin, tu vois, des services. Et puis, voilà, tout est accessible au travers d'une interface tactile qui est pensée de manière très intégrée. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment deux conceptions de la voiture électrique aujourd'hui. Il y a ça, c'est-à-dire l'intégration totale, c'est-à-dire Tesla fait tout, le logiciel, le machin, ils font pas encore les services. Aux États-Unis, ils vendent aussi l'assurance directement avec. Et alors de l'autre côté, en Chine par exemple, il y a aujourd'hui, on dit, entre 100 et 200 constructeurs de voitures électriques. Qui eux sont sur un modèle qui est un peu, tu sais, le modèle des fabricants de PC des années 90 et 2000. C'est-à-dire, bon, t'as une marque, ok, t'as un design, et puis après, tu vas chercher tes composants sur, tu vois, on the shelf, quoi. Et tu vas prendre le moteur de machin, la batterie de truc, le divertissement d'un troisième, tel logiciel, tel accessoire, tel... Mais ça, c'est rendu possible justement par la simplicité de la technologie qui est en dessous et par la modularité de tout ça. Et bon, il ne va pas rester ad vitam 200 constructeurs de voitures électriques en Chine. Il va y avoir une rationalisation à un moment. Et ça me rappelle, quand on lit l'histoire de l'automobile, à la toute fin du 19e, début du 20e siècle, en France, il y avait une centaine de constructeurs de voitures.
Oui. Mais pour en revenir à cet écran central qui est finalement une sorte d'iPad, quoi. T'as une,
oui.
Oui, t'as un petit peu un
iPad. Une grande tablette.
C'est un gros iPad sur ta... Est-ce que c'est si incroyable que ça d'avoir un iPad sur le tableau de bord de la bagnole? C'est
juste la première fois, ça fait un choc.
Non, c'est fois, étrange. C'est... Mais est-ce que c'est aussi... est-ce que c'est un, comment dire, un agrément? C'est juste que tu as un gros écran sur ta bagnole et voilà quoi, c'est pas non plus un avantage, c'est juste une manière différente de faire les choses, si c'est... Qu'est-ce que ça apporte?
Tout à coup tu sais où regarder. C'est-à-dire que tu te dis pas, ça doit être sur un autre, il y a peut-être un autre bouton de... Non, il y a pas de bouton, donc tu vois, t'as
un levier à droite à gauche, quoi.
Voilà. Et en plus, ça permet des choses beaucoup plus difficiles sur une voiture traditionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelques mois, il y a une mise à jour où ils ont changé l'interface. Tu vois, j'ai encore fait une mise à jour ce matin de ma voiture. Je suis allé voir les notes de mise à jour parce que moi, je suis un peu geek. Donc, je suis allé voir. Il y a un truc sur le préconditionnement de la batterie. En gros, si tu chauffes un peu la batterie, elle recharge plus vite. Enfin bon. Et puis sur, je sais plus, il y a des petites améliorations. Parfois, il y a des grosses améliorations ou des nouveaux contenus. Par exemple, il y a toute une série de jeux vidéo qui sont livrés dans la voiture. Il y a des prises USB. Tu peux brancher un pad et jouer à des jeux.
Soyons honnêtes, c'est un peu gadget quand même, ça, non?
Attends, tu verras là encore quand t'auras deux ou trois enfants et que tu t'arrêtes au chargeur et que là par contre il n'y a pas un McDo à côté, il n'y a rien, donc t'as juste 20 ou 25 minutes à tuer, t'es ravi de pouvoir dire tiens, je te démarre Netflix.
D'accord.
Ça simplifie la vie de manière absolument massive. Okay. Et l'écran est très agréable en plus. En plus, le son de la voiture est génial. T'as une expérience qui est quand même vachement sympa.
C'est connecté ça. Comment à Internet? T'as une connexion 4G oui. Que tu payes en parallèle?
Alors, il y a un package que tu payes sur ce modèle-là, une dizaine d'euros par mois pour la connexion 4G, l'accès aux données d'infotrafic, Spotify et que sais-je encore.
Donc, t'as un abonnement ouais, d'accord. On parlait d'autonomie avant de conclure avec les questions de batterie. On parlait d'autonomie et de voitures autonomes.
Le teasing que tu fais sur les questions de batterie est presque idée,
oui,
hors de proportion. Hein,
non, mais parce que je veux y arriver, je veux pas qu'on l'oublie. On est quand même, on nous en parle depuis quoi, facilement 5 ans, en nous disant ouais, ça y est, dans 2 ans c'est réglé. On en est où aujourd'hui? Et encore une fois, on parle de Tesla peut-être spécifiquement, mais c'est un petit peu le modèle pour le reste de l'industrie.
C'est un peu le pyramidal, oui.
On en est où? Enfin, clairement, c'est pas des voitures c'est juste bien. Autonomes, c'est pas le salon roulant, quoi.
Non, sauf... En standard, tu as un système de, on va dire, d'aide à la conduite avancée qui te permet, tu vois, de garder ta vitesse, mais surtout de manière adaptative par rapport aux véhicules qui sont devant toi. Donc ça freine quand ça freine, ça redémarre quand ça redémarre, etc. Mais aussi avec une assistance au maintien de fil, comme on dit, qui te garde dans ta voie. Bon, ça c'est en standard sur toutes les Tesla en l'occurrence. Je l'ai déjà vu en standard sur des voitures thermiques aussi. Hein, c'est pas voilà. Moi qui fais tous les jours 10 km d'autoroute de Normandie et 10 km de périphérique, je peux te dire que ça me change la vie. C'est-à-dire qu'une fois que je suis passé de l'un à l'autre, le petit levier qui est à droite, je fais tic tic, ça fait tung tung, et ça y est, je ne touche plus à rien. Ni aux pédales, ni au volant, ni à rien. Et après, il y a des systèmes plus avancés que tu peux débloquer contre paiement, mais qui sont pas encore très efficaces chez nous. En tout cas, pas autant qu'aux États-Unis. Allez voir Full Self Driving sur YouTube et vous verrez des gens qui sont en plein centre de San Francisco, qui dans le truc de navigation mettent aéroport et la voiture y va. C'est tout. Tu ne touches à rien, même en ville, ça gère les feux rouges, les stops, les machins, etc. Il y a un truc sur l'écran qui est très impressionnant, qui marche sur toutes les versions, qui est une représentation en 3D de ce que la voiture voit, en gros, de ce qu'elle comprend de son environnement. Ouais. C'est-à-dire qu'à coup, elle comprend au travers des caméras qu'elle a tout autour, ça c'est une voiture, ça c'est un camion, ça c'est une moto, ça c'est un vélo, ça c'est un panneau de limitation de vitesse, ça c'est un feu rouge, ça c'est des cônes oranges sur le côté de la route, etc. etc. Et c'est grâce à ça que tu peux faire de la conduite vraiment autonome. La promesse étant que, bientôt, real soon now, et ça y est, la législation en Europe va évoluer, je crois, dès cet été, tu vas pouvoir libérer certaines de ces fonctions au fur et à mesure. Alors, pour l'instant, ils veulent le limiter à 60 km/h. Ce qui est un peu frustrant, mais on va pas faire du 60 sur l'autoroute. Ce qui est dommage, parce que l'autoroute est quand même le meilleur endroit, si tu veux, pour faire ce genre de choses.
Le moins risqué, là où le logiciel va le plus facilement comprendre ce qui se passe autour de la voiture.
Les voitures vont dans le même sens, il y a un terre-plein central, enfin voilà, il y a peu de surprises. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'endroit le moins accidentogène. Et mais tout ça va se débloquer assez rapidement. Et c'est à l'expérience, ça change totalement tes voyages. C'est-à-dire que tout à coup, c'est quand même extrêmement reposant. T'as, pour ainsi dire, plus rien à faire. Il y a une option qui marche chez nous, qui est payante, je ne sais plus combien elle coûte, je crois, enfin, qui embarque plein d'options d'autonomie pour se garer tout seul, pour tout ça, etc. Mais par exemple, pour dire, tiens, je suis à, je sais pas, à 100, je suis derrière une voiture qui, elle, est à 70, eh ben, je vais pouvoir déboîter, accélérer et me remettre dans ma file, toute seule. Ça, je ne l'ai pas débloqué parce que ça me paraît un peu cher pour ce que c'est et j'en suis pas.
C'est combien, par exemple, mais... utilisé
Le problème, c'est que le full self-driving n'arrête pas d'augmenter, en tout cas aux États-Unis et un peu chez nous aussi. Je crois que le package complet maintenant c'est 10 000 euros. Mais avec la promesse ultime qui est de dire mais attends, la promesse qu'il y a derrière, c'est pas juste de dire bon, c'est chouette, ça va se conduire tout seul. C'est
la voiture devient une salle d'attente où tu peux faire ce que tu veux, quoi.
Même pas, c'est-à-dire que imaginons que tu arrives à ta destination, ton bureau le matin, d'un coup, ta voiture va pouvoir aller se garer toute seule, chercher une place de stationnement toute seule. Ou alors, tu vas faire ding-ding sur l'écran et elle va devenir un VTC autonome.
Ouais. Ça me paraît un petit peu... Bon, je sais pas. Ça me paraît un petit peu... Bah, c'est possible, oui, mais tu vas pas vouloir filer ta bagnole si t'as payé une Tesla.
Si tout à coup, l'argent que ça te rapporte fait que ta voiture te coûte rien, voire te rapporte de l'argent... Il y a une équation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a maintenant une petite caméra à l'intérieur du véhicule pour garder un œil sur ses occupants. Alors pour l'instant, ça fait juste de la détection, ça surveille le comportement du chauffeur pour vérifier que tu t'endors pas, que ton attention est bien sur la route, tout ça, parce que dans la vue de la full autonomie, pour l'instant, ils notent ta qualité de conduite. D'ailleurs, quand ils ont lancé la bêta aux États-Unis, tu pouvais débloquer un truc pour justement que la voiture t'attribue une note, ce qui est assez frappant quand même, et te dise désolé, t'es à 92 là, t'es pas à 100, hein, vraiment, voilà. Et au début, ils ne débloquaient la bêta qu'aux gens qui arrivaient à rester à 100 pendant 2 semaines. Donc, il y avait des histoires merveilleuses de type qui disaient j'ai jamais été aussi attentif sur la route de ma vie. Et j'ai prêté la voiture à ma femme pour qu'elle aille faire des courses avec ses copines. Et moi, ma note a baissé. Bref.
Mais, d'accord. Mais bon, donc la conclusion, c'est que on n'y est peut-être pas complètement, mais on commence à arriver à suffisamment de situations où ça fonctionne vraiment pour que ça soit un plus dans la conduite, quoi.
Tout à fait.
Ce dont on a l'impression là, c'est que c'est un truc qu'on nous promet depuis des années et qu'en fait, ça n'arrive pas. Ce que tu nous dis, c'est que si, c'est en train d'arriver et ça évolue un petit peu tous les jours, quoi.
Oui, absolument. Là aussi, il y a en fait, l'histoire, c'est que quand tu conduis, en l'occurrence une Tesla, la voiture n'arrête pas de renvoyer des datas, si tu veux, à la maison mère, en gros, sur justement ton comportement de conduite. C'est pas pour noter ton comportement de conduite, c'est parce qu'en fait, l'autopilote, il tourne tout le temps. Il tourne tout le temps, même quand il n'est pas déclenché. C'est-à-dire que, en gros, il compare ce que lui aurait tendance à faire en disant, tiens, dans cette situation-là, moi, je ferais ça. Et il regarde ce que tu fais, toi. Et s'il y a une différence notable entre ce que tu fais, toi, et ce qu'il ferait, lui, et si, en plus, à cet endroit-là de la route, par exemple, cette différence-là se vérifie sur des dizaines et des centaines de Tesla qui passent au même endroit, là, les données sont renvoyées pour dire, peut-être que finalement, c'est la machine qui a tort. Peut-être que là, en fait, oui, ça, c'est une glissière, ça, c'est un machin, ça, c'est une sorte sortie d'autoroute qui est mal signalée au sol, etc. Et du coup, tu vois, bon, ouais, mille situations possibles. Et ça permet d'affiner à la fois l'expérience, le logiciel, etc. Donc, il y a une... Enfin, tout ça s'appuie sur des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres parcourus, quoi.
D'accord. Bon, je crois que le moment est arrivé. Les batteries. C'est quand même un
point... Je suis
désolé,
mais... Je vais t'attrister, mais c'est un nothing burger, hein, les batteries.
Ouais, bah c'est un peu ce que je... Enfin, bon, c'est en tout cas un sujet qui est sujet à controverse. Beaucoup de gens pensent que c'est un vrai problème et que, effectivement, la question des terres rares et du lithium et du cobalt et de toutes ces choses-là, qui sont... disponibles, alors certains disent en abondance, mais qui sont dans des endroits spécifiques sur Terre, et que leur minage et raffinement sont compliqués à faire de manière vraiment propre, et qu'on a relativement peu de perspectives pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, ça va. Mais quand petit à petit on va avoir besoin de batteries dans, parce qu'une batterie dans un iPhone c'est une chose, mais une batterie dans une voiture c'est à peu près 42 000 fois la quantité de métaux. Et puis quand toutes les voitures, tous les bus, tous les tout sera électrique, si c'est une solution durable, si c'est une solution à grande échelle, bah c'est plus les mêmes questions de comment dire, d'industriels, quoi. Et l'un des trucs qu'on a en perspective, c'est les batteries justement en solid state, enfin des batteries solides plutôt que l'électrolyte.
En fait, ouais.
Et donc ça permettra de réduire le poids, augmenter l'autonomie, etc., etc. Mais il n'empêche, c'est quand même un souci qui va à un moment poser quelques questions. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Alors,
hein, monsieur Ingrand, que répondez-vous à ces...
J'ai l'impression d'être sur Facebook, parce que combien de fois je vois des trucs comme ça. Ouais, de toute façon, les batteries, c'est pourri, ça pollue, c'est des petits enfants qui les extraient et ça se recycle pas. Alors, on va essayer d'être un tout petit peu didactique et de prendre les choses une à la fois. Dans les batteries des dix dernières années, très schématiquement, il y a quoi? Il y a du lithium, il y a du nickel et il y a du cobalt. Alors, le cobalt, il a un gros défaut, c'est qu'il est extrait majoritairement en République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que tu as un seul fournisseur, bon bref, c'est un peu compliqué, et alors, je ne peux que recommander une chose, parce que sinon on va y passer un temps fou, allez voir un documentaire formidable fait par des Suisses, un truc extraordinaire qui s'appelle « À contresens ». Et qui, c'est les seuls que j'ai vu faire ça, se sont vraiment posé des questions et sont allés voir. C'est-à-dire que tous les gens qui vous disent « Oui, mais c'est les petits enfants avec leurs mains qui ramassent le cobalt ». Non, personne n'est allé voir. Eux, ils sont allés voir. Et ils se sont aperçus qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a du cobalt dans le sous-sol. Donc, il y a des gigantesques mines professionnelles avec des gens employés, avec des conditions de sécurité, des machins, etc. Très bien. Le problème, c'est que personne ne peut t'empêcher, si tu as une maison et que tu es dans le coin du Congo où il y a du cobalt, personne ne peut t'empêcher d'aller, en gros, creuser dans ton jardin pour essayer de voir si tu en trouves.
Ouais, et c'est donc, c'est la question des mineurs artisans, ce qui s'appelle les mineurs artisans.
Des mines artisanales, etc. Alors, le Congo est en passe de résoudre le problème avec des comptoirs qui n'acceptent que les sources professionnelles, etc. etc. Et bon, donc, ces mines artisanales, où en gros, on pouvait faire travailler toute la famille, c'était déjà, je crois, c'était 2% du marché. C'était quand même apparemment très minoritaire, mais c'est vrai que c'est l'image qu'on en garde, et tout à coup après on se met à tout confondre en disant ouais, le lithium c'est les petits enfants qui... Non, arrêtez vos conneries. Le lithium, même là où on extrait beaucoup, je pense au salar du Chili, etc., etc., c'est un sous-produit de l'extraction du potassium. Bon. Le passage du thermique à l'électrique en disant « Ah, mais regardez, tous les métaux rares, machin !» C'est encore le thermique aujourd'hui qui consomme le plus de ces métaux et de ces terres, parce que, par exemple, pour faire les pots catalytiques, alors évidemment, avec la baisse du thermique, ça va baisser, mais bon. Donc, ça, c'est le cobalt. Le nickel, il y a pas mal de sources de nickel. Le problème, c'est qu'il y a énormément de demandes, donc le prix a explosé. Elon Musk disait l'année dernière qu'on allait finir par avoir un vrai problème avec le nickel. Donc c'est, là, c'est pas un problème de teen enfant, c'est un problème économique. C'est de dire, la demande explose, est-ce que vraiment on aura assez de nickel pour fournir le marché? Est-ce que tout à coup, ça compromet pas l'économie du truc? Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. C'est que dans ma voiture à moi, il n'y a pas de cobalt et il n'y a pas de nickel. Ma batterie à moi, elle fait, ça c'est vrai depuis le début de l'année 2021 pour toutes les Tesla produites en Chine, c'est que à l'intérieur, c'est une batterie avec du fer et du lithium. Le lithium, on en a pas mal. Pourquoi est-ce qu'on les extrait que, alors il y en a en Australie, il y en a au Chili, il y en a ailleurs. Bah, c'était pour des questions de conditions économiques. Moi, j'ai vu la semaine dernière un rapport du BRGM, du Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui est un truc français, où on apprend qu'en fait, la France, par exemple, est un pays qui est riche en lithium. Il y a toute une région qui part de la Bretagne pour aller jusqu'au Grand Est, où on pourrait installer une quarantaine de mines de lithium. Dans l'Est, justement, il y a, je sais plus où c'est, un endroit où ils font de la géothermie, où ils sont aperçus que le sous-sol était riche en lithium. Mais quand je dis riche, ils ont fait une estimation, ils ont dit, bah oui, on va en extraire, parce que il y aurait de quoi faire les batteries de 40 millions de véhicules. Donc en fait, le lithium est surtout un problème économique. Et à l'instant, là en ce moment, il y a une start-up qui a levé un fric fou pour ouvrir à Dunkerque une sorte de gigafactory de batteries. Bah tout à coup, il y a un sens économique éminent à dire tiens, ce serait pas mal si on avait des mines de lithium pas loin, parce que c'est pas la peine de l'importer par bateau, tu vois. Et tout à coup. Le marché va s'adapter à la demande et avec ça, les conditions économiques qui font que ça ne fera pas exploser le prix des batteries qui, lui, est en baisse constante depuis 10 ans. Donc y a, la technologie avance. C'est intéressant de voir qu'elle avance enfin sur les batteries, parce que si la technologie avait avancé sur les batteries comme elle a avancé sur les processeurs, en gros, la batterie d'une Tesla ferait la taille d'un smartphone, tu vois ce que je veux dire, et coûterait 20 centimes. Mais tous les problèmes qu'on t'oppose, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que c'est pas forcément des vrais problèmes. Le truc du recyclage, on dit ça se recycle pas, je finis avec ça. Alors là, c'est carrément des conneries. C'est-à-dire que non seulement le recyclage est une bonne idée, mais c'est la loi. C'est-à-dire que depuis 2006, c'est pas récent, t'es forcé de recycler au moins la moitié, je crois, des batteries. Et en fait, tu t'aperçois que, comme on le disait au début, la durée de vie de ces batteries est extrêmement longue. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait une perte en autonomie telle qu'il faille en changer, bah oui, là, t'auras atteint, je sais pas, 500 000, 700 000, 800 000, 1 million de kilomètres. Donc, en gros, on est au-delà de la vie utile de ta voiture. Que ces batteries-là, avant même qu'on les recycle, elles ont toutes les chances de connaître une seconde vie, par exemple, comme stockage d'énergie pour toutes les installations solaires, éoliennes, à la maison, ailleurs, etc. etc.
C'est-à-dire que quand elles ont perdu un peu de capacité suffisamment pour qu'il faille les changer dans la voiture, on peut encore les utiliser.
Et puis de capacité en fait à délivrer la puissance dont a besoin une automobile de manière instantanée, tu vois ce que je veux dire. Là, tu peux en faire du stockage résidentiel, ou pour les entreprises, ou pour machin, ou tu vois, comme des énormes UPS pour éviter les baisses de tension, enfin bref. Et même une fois que ça s'est fait, bah, tu peux les recycler. Et je voyais un recycleur récemment qui dit, mais vous savez, les meilleures batteries, c'est celles qui sont faites à partir de matériaux recyclés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur le papier, il n'y a pas de perte. Tu ne perds pas 50% de voilà, ou tu ne produis pas des batteries de moindre qualité quand tu les fais à partir de matériaux recyclés, au contraire.
D'accord.
Donc tout ça, c'est des filières à mettre en place. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de recyclage aujourd'hui? Bah, parce qu'il n'y a pas beaucoup de batteries en fin de vie. C'est aussi simple que ça.
Donc pour toi, est-ce que tu es en train de nous dire c'est juste pas un problème? Ou c'est des choses qui se... Enfin, c'est quand même un sujet. Je comprends, tu dis, ah, j'ai l'impression de voir Facebook, machin. Et j'ai du mal à savoir. Je te fais confiance, je te connais plus longtemps.
Tu n'as pas d'autre choix.
Je connais, voilà, mais je connais ta rigueur journalistique quand même. Je sais que tu n'es pas, comme on disait, tu n'es pas un vendu à l'industrie. Peut-être un peu enthousiaste, hein, on l'a compris.
Je suis enthousiaste, mais j'ai creusé un peu le sujet quand même.
C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est des sujets qui sont controversés, mais tu es en train de dire vraiment sur ce coup-là, alors c'est peut-être pas de la fake news, mais c'est des gens qui comprennent mal le problème et qu'il y a des solutions.
C'est aussi, c'est, C'est aussi parce qu'il y a plein de gens, et alors là, on tombe dans la théorie du complot, mais pas du complot, c'est pas la peine d'aller loin. Tu vas écouter le patron de Stellantis et il dit oui, enfin, il disait il y a encore peu de temps, je crois, ou enfin, on sait pas, hein, avec les batteries, on est peut-être à la veille d'une catastrophe écologique. C'est des conneries. Alors, je veux dire, il y a rien. Je vois pas sur quoi il peut baser un tel truc quand on sait que le recyclage est obligatoire, que machin, etc., qu'il y a une demande telle que, enfin, en gros, on est dans le pipeau total, dans le FUD, tu vois, le fear, uncertainty, ouais. and doubt. Donc, il y a quand même. Parce que imagine ce que c'est la vie d'un pétrolier aujourd'hui. Bon, bah ça va être chef, tu sais, c'est comme la pub Lidl. Chef, on est mal, chef. Oui, dans 5, 10 à 20 ans, on est mal parce qu'en plus, on voit que le mouvement s'accélère et qu'il y a des effets de cliquet et que les gens ne reviennent pas en arrière. C'est ce que je disais au début. Le moteur à explosion aujourd'hui, c'est presque une curiosité. C'est-à-dire, tu dis, mais pourquoi ce truc qui pue, dont l'efficacité énergétique est pourrie, qui est en plus très cher, qui fait du bruit, qui demande une maintenance d'enfer. Il y a des gens qui sont amusés sur les réseaux sociaux à imaginer le truc inverse, tu vois, à se mettre imaginons qu'en fait, on soit en train de passer d'électrique au thermique. Oui. Et faire, tu vois, le monsieur tout le monde qui se poserait les mêmes questions et qui dit, mais attendez, vous voulez dire qu'en fait, quand je rentre chez moi, je peux pas alimenter en carburant ma voiture.
Ouais. Mais il faut que j'aille dans un endroit truc et que je leur donne où ils ont amené de l'essence du Moyen-Orient et qu'ils l'ont raffiné.
On me dit que ça fait sortir de la fumée qui sent pas bon. Je comprends pas ce que quelqu'un peut me le confirmer. Bref.
C'est une manière intéressante de voir la chose, effectivement. Comparé dans le sens inverse, ça tout à coup éclaire l'utilisation d'un véhicule thermique d'une lumière qui est quand même étrangeante, on va dire.
Exactement. Mais il faut avoir de l'empathie pour les gens qui se posent ces questions et qui se disent, non mais attends, est-ce que vraiment je vais arriver à... Est-ce que vraiment ça va cadrer avec ma vie, quoi, tu vois? Est-ce que je vais arriver à recharger? Est-ce que je vais pas me retrouver...
Non, bien sûr.
On a tous l'angoisse.
Je crois que je suis
marié à une femme formidable, mais qui, même sur une voiture à essence, dès que t'es à 50% de réservoir, te dit, va faire le plein.
Ah non, mais ça c'est moi, je suis complètement... Attends, non, mais on sait jamais. En plus, on est dans un endroit où, tu vois, le plus long trajet qu'on fait, c'est 100 km.
Toi, t'es au milieu des loups, tu vois, donc forcément, je comprends. T'es dans la steppe au milieu des loups, donc je comprends que t'es pas envie de te retrouver en
plein. Je peux dire que dans le contexte actuel, on essaye d'avoir le plein quand même régulièrement. Hein. On sait jamais, mais,
oui,
mais ça, c'est un autre problème.
Après, on parle de risque géopolitique où tout à coup... Et je pense que, alors là, ce qui est en train de se passer en ce moment va encore mettre un coup de fouet à l'électrique terrible, mais terrible. Parce que, tu vois, là, quand tu passes sur les portes de Paris et que tu vois les pompes à essence, tout est à plus de 2 euros le litre.
Ah bah ici, on est à 50, hein, donc... Mais voilà. Tu vois, l'autre question qu'on se pose, c'est qu'au moins, quand tu dis s'il y a une coupure d'électricité, bah, ta voiture, elle tourne toujours quand t'es en thermique.
Yep.
Quand tu es en électrique, bon, après, tu as des cas extrêmes dans tous les sens. S'il n'y a plus d'essence, c'est un peu le même problème. Voilà. Mais oui, l'électricité, du coup, si on se met à tout baser sur l'électricité, on a un point de faille qui est généralisé. C'est peut-être un argument.
Ouais, alors sinon, je me faisais la réflexion pendant les fêtes où j'étais à La Réunion. Je ne veux pas faire office de tourisme, mais aller à La Réunion, c'est extraordinaire. Ouais, vraiment, c'est formidable. Et en fait, je me faisais la réflexion, La Réunion, c'est une île au large de Madagascar. Moi, j'en ai littéralement fait le tour. Je crois que le tour de La Réunion, tout compris, doit faire 140 kilomètres, la circonférence de l'île. Et là-bas, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient assez amoureux de leur bagnole dans l'ensemble. Et je me disais, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que je me suis renseigné, j'en ai parlé dans le podcast, et il y a des Réunionnais qui m'ont donné des renseignements. Alors, ils ont le bonheur d'avoir un prix du litre régulé, c'était 1,60 pour tout le monde. Je crois que c'est 1,60. Mais surtout, je disais, mais ça n'a aucun sens. Leur essence, elle arrive par bateau de Singapour. Mmh. T'imagines déjà l'empreinte écologique du truc, quoi. Mmh. Et là, l'argument de dire, ah, mais moi, je veux pouvoir aller à Monaco demain matin. Non, t'es sur une île, mec. Donc, tu vois, ton autonomie utile sera jamais plus de, je sais pas, 200 km par jour. Enfin, jamais tu vas taper la limite. Donc, je pense que ça fait partie des endroits où il serait loisible d'accélérer le mouvement, quoi. Bon, alors, le problème, c'est que eux, ils ont pas de nucléaire, tout ça, donc ça pose pas de soucis. Mais, bon. Voilà.
Ouais. Écoute, je crois que, évidemment, on va pas tout, on pourra pas parler de, d'absolument tout, mais je crois qu'on a fait un bel tour d'horizon.
Voilà.
Ouais. Et je te remercie de nous avoir fait profiter de ton enthousiasme et d'avoir
éclairé. C'est un immense plaisir. Revenez quand vous voulez. Et si, alors, surtout, si vous n'avez jamais fait un tour en voiture électrique, je vais vous donner mon portable. Non, je plaisante. mais trouvez un voisin, un cousin, un frère, un collègue qui en a une. Allez faire un tour avec. C'est vraiment une autre... c'est un peu la bouteille à langue de dire c'est une autre façon de concevoir un machin. Non, c'est vraiment différent. Voilà, faut juste surmonter un petit peu vos peurs du début en disant oui, non, mais toutes les questions que vous vous posez, dans l'ensemble, elles ont une réponse et surtout elles ont acquis une réponse au travers des 10 dernières années. J'ai envie de dire, il reste pour ainsi dire plus de, il y a encore des choses qui sont hors de portée de l'électrique. Tu vois, c'est par exemple le transport routier. Là, oui, de fait, où tu as besoin de faire Lille-Vintimille en une seule traite. Ouais, bon, on n'y est pas encore, ça va venir. Eux aussi, ils vont avoir des giga machins avec des giga batteries et des giga serveurs, mais là, on n'y est pas encore. Mais honnêtement, pour monsieur tout le monde, la voiture de tous les jours, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas électrique dans les quelques années à venir.
Écoute, ça me paraît être une bonne conclusion. Où peut-on te retrouver sur Internet si on en veut plus? Alors, il y a les doigts dans la prise, on mettra le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission.
Merci beaucoup, à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast favorites, et puis @Cédric sur Twitter.
Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, notepatrick.com également, et je voudrais remercier spécifiquement les producteurs des Patriotes, enfin les Patriotes producteurs du Rendez-vous Tech qui soutiennent plus particulièrement cette émission. Tous les Patriotes sont dans mon cœur, vous le savez, et les producteurs qu'on remercie chaque mois, bah, je vais donner tous leurs noms aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont trouvé le niveau secret, super top cool, sur patreon.com/rdvtech. Il s'agit de SSI78, Peter Rigal, Raph, Stéphane Lioret, Lancelot Davizard, Franck Matignon, Derek Herb et Léthargique Panda. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Si vous pensez qu'il est peut-être temps pour vous de passer le pas, eh bien vous pouvez aller sur le lien qui est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Et si vous soutenez déjà l'émission, sachez que cette émission existe grâce à vous et je vous en serai éternellement reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!